Bon, j'ai le plaisir d'ouvrir cette dernière séance de l'après-midi. Je ne peux pas ne pas exprimer ma gratitude envers Hélène d'abord, bien sûr, mais aussi Martha, de nous avoir réunis ce temps précieux de lecture. Je pense que pour nous tous qui courons sans arrêt tout le temps, souvent ou trop souvent pour ne rien faire, c'est un cadeau que vous nous faites de nous faire arrêter le temps de penser ensemble. Donc merci beaucoup pour ça. Je relance les mots de Laurent Ferry de tout à l'heure à propos des gens qui sont motivés par le désir de métamorphose. Il me semble que là je suis entourée de gens, si je ne me trompe pas, qui sont motivés par ce désir de métamorphose. J'ai autour de moi hommes, femmes, franco-américains, autrichiens, européens et même un peu chinois, il me semble. Et sans doute, il y a aussi autre chose que nous allons découvrir avec les lectures qui nous attendent. Donc là, je présente pour commencer Laurent Dubreuil, qui est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont En français, Pure fiction, qui est sorti en 2013, et Génération romantique, qui est sorti en 2014, et en anglais, The Intellective Space, Poetry and Mind, qui nous arrive bientôt, il paraît. Laurent est ancien rédacteur en chef de deux revues, Labyrinthe et Diacritics. Il est professeur de littérature comparée, d'études romanes et en sciences cognitives à l'Université de Cornell aux États-Unis. Il est également le titulaire de la chaire internationale de l'Institut de littérature et culture mondiale à l'Université de Tsinghua à Beijing. Et Laurent, il a aussi été une présence forte au séminaire d'Hélène Cixous. Il a fait sa seconde thèse de doctorat sous la direction d'Hélène Cixous. Et c'est son travail de thèse a servi d'ébauche à un livre qui s'appelle « À force d'amitié » qui est sorti en 2009. Donc Laurent va nous parler du musée HC.
Merci Ashley. C'est dans cette même scène, ou cette scène aussi, un voyageur, une visiteuse, corps ou regard ou voix, allant par des galeries volontiers dépeuplées, traverse un musée fantastique aux œuvres qui s'animent, qui invoquent des spectres, qui ouvrent sur les autres mondes. C'est une scène de rêve, me dirait une voix célèbre, et je répondrais « peut-être ». C'est une scène de film, en tout cas, du plus populaire au plus rare, du grand ou du petit écran, l'infantile superproduction d'une énième nuit au musée, ou la hantise d'un, c'est-à-dire d'une, Belphégor au Louvre, pour ceux qui ont un souvenir de la RTF en France, telle élégie d'un voyage ou séjour sur une arche ou dans un ermitage pour les amateurs d'Alexander Sokourov. Et plus humblement, ici, permettez, je t'autobiographise, l'argument de mon premier et en un sens de mon seul et unique film, lorsqu'à 10 ans, je donnais dans un scénario collectif l'idée qui lançait l'intrigue, je cite, « Un enfant contemple un tableau et s'y transporte, il rencontre alors des êtres étranges. » Et ma classe de cours moyen opta pour un peuple oiseau en guise d'alien. Et c'est donc cette même scène de film ou de rêve que je ne me lasse pas encore d'écrire et qui nous mène aujourd'hui au musée HC. Et je ne songe pas ici au futur musée Hélène Cixous avec des tirets de 2067, si près la baie d'Arcachon ou au haut étage d'une tour parisienne, autre maison de Victor Hugo, autre résidence de Lu Xun, autre Edgar Allan Poe National Historic Site, autre Dove Cottage, avec ses reliques, parapluies, lunettes, bas de soie, plumes à écrire ou de corbeau, lettres, manuscrits, draps de lit, et sans doute, nous sommes en 2067, avec l'hologramme d'Hélène répétant à l'infini, c'est infini. Non, le musée HC, dont nous avons déjà ensemble franchi le seuil, est constitué de quelques salles d'exposition où, sur l'ordre fluctuant d'un imaginaire, quelques toiles s'illuminent, une statue s'exhibe, une musique bruit et font ensemble littérature. Ainsi, chaque visite est unique, forcément partielle, et parfois très écourtée, comme en cet après-midi de juin 2017, où après les doubles portes, Ashley, la nouvelle gardienne du temple par intérim, me dit pas plus de 15 minutes. Alors faisons vite, faisons très vite. Nous ne nous attarderons pas dans la première pièce, au mur couvert des plis dépliés de Simon Hantai, fractions bleues, triangles roses, coins et bords rouges, arlequins abstraits. Sciemment, je ne jette pas non plus un coup d'œil aux Alechinsky de l'autre cloison. Je ne regarde pas ces cases, ces encadrements, ces tourbillons, ces griffonies qui signent et qui incisent le papier. Nous n'avons pas le temps, vous dis-je. Un corridor sombre nous mène donc de la première à la deuxième salle. Sur un mur du couloir est diffusé un film en noir et blanc. Le montage fait alterner deux rêveurs, Mary dans sa chambre majestueuse, Peter sur le grabat de sa prison. La lumière oblique est filtrée par les croisillons des vastes fenêtres palatiales, par le treillis des grilles au-dessus de la geôle. Peter se lève de sa couche et passe à travers les barreaux de sa cellule. Mary l'attend après l'escalier. Entre le flou des raccords et les quadrillages projetés par le vif éclairement, les deux personnages passent et se rencontrent. La musique change et le décor aussi. S'ouvrant sur la maison des amours enfantines et sur son soleil, alors même que je sors pour ma part du corridor et abandonne Peter Ibbotson et pénètre dans une autre chambre aux images, immense hall d'exposition de soi où peu manque en matière d'autoportrait. Ni les Rembrandt peints et en dessin, échevelés, à chapeau, à bonnet, de trois quarts, de profil et de face, bouche ouverte ou bien close, riant, rêvassant, grimaçante, amolie, dure, si vieux, rajeuni, en fille, en ses juives, en carcasse de bœuf entr'ouvert, ni près d'eux les variations photographiques de HC par Ronnie Horn, indexant tel regard énigmatique, telle invitation au visage, tel air de rapace, ni bien sûr les miroirs rococo disposés en face qui me montrent en train de nous contempler dans la figuration des autres jeux d'Hélène par Ronnie Horn. Portrait de Dora, portrait du soleil, portrait de Jacques Derrida en jeune Saint-Juif, autant de portraits du non-soi qui se disent « moi » ou qui se disent aussi « moi » selon la procédure Stein et son « Autobiography of Aristoteles ». L'œuvre de fiction chez Cixous, et je ne l'oublie pas, fiction fut longtemps un rituel sous-titre des récits, pour utiliser ici une tierce catégorie qui est elle-même incapable de rendre compte de son objet et de son sujet. Cette œuvre, donc, narrative, critique, théorique, expositive, insiste sur la mise en fonction des mémoires, confessions et portraitures, avec deux sortes de devises temporaires. L'une « ne vaut là de soi que ce qui s'ouvre autre », avec pour corollaire « tout autre est encore autre soi ou autre que soi ». Et c'est ainsi que le corpus fictionnel d'Hélène justifie la remarque souvent citée, et que je cite à mon tour, « Il y a dans la vie de mon regard deux ou trois tableaux au monde qui me mènent. Il y a le bœuf écorché, l'autoportrait de Rembrandt le plus cru. Il y a le chien à demi enfoui ou déterré, l'autoportrait en jaune de Goya. Il y a l'écriture rose, l'autoportrait de Hantai. » Fin de citation. Pour dire vrai, et autant de cela se disent d'ailleurs, j'ai si fort envie d'autres autres que j'aurais, pour ma part, une réticence peut-être à voir dans ces trois toiles et dans d'autres, trois autoportraits, fussent-ils halo autoportraits, fussent-ils dessins du soi parce qu'ils le présentent hétérogène. De même, je m'interroge parfois sur la clôture des personnages familiaux qui, certes revenant différents d'un livre à l'autre, réinscrivent des rôles et des distributions. Mais ces questions sont si anciennes qu'elles avaient déjà partie liée du souhait que je formulais en 1998 d'entamer une thèse de doctorat. D'entamer une thèse de doctorat sur non point les liens familiaux, mais l'amitié, sous la direction d'Hélène Cixous, et que ce que celle-ci aussitôt, et par amitié, accepta. Ces dernières réflexions me font anachroniquement passer entre les espaces d'un hier reformé. Là, je suis dans la salle de conférence moderniste du 46, où après quelques échanges épistolaires et téléphoniques, je parle pour la première fois avec Hélène, face à face, lors de la pause du séminaire, elle me présente à deux chercheurs, dont l'une est maintenant à deux pas de moi. Ou bien, avec un camarade, nous demandons, salle des résistants, à l'écrivain Cixous certains des pourquoi de l'œuvre. Ou bien, sous un haut plafond, à l'autre bout d'Allégories à la Puville Chavannes, je disserte un samedi sur Rimbaud et sur les fantasmagories de Robertson, sur Onan et sur Rousseau, sur les aveugles de Bruegel et de Baudelaire. Ou bien, derrière un château normand, nous sommes trois à prendre la pause. Eh oui. Ou bien, dans le salon d'Hélène, c'est l'actualité, et vous savez qu'actualité s'écrit avec un H après le T. Est-ce que ce sont des souvenirs ? Cela me semble plutôt des épiphanies de praxinoscope, de zootrope ou de kinétoscope. Ces appareils figurant la fulguration des images mentales, ces doubles exotiques des lanternes magiques du jeune Ingmar à Uppsala et de l'enfant Je de Combray. C'était, dans le hall du musée où nous nous tenons, rappelez-vous, le coin des anciennes nouvelles technologies de l'image ravivées et défuntes, un angle que je quitte à regret. Juste avant la dernière salle et la seule que je voulais vraiment visiter cet après-midi dans les 10 minutes qui me restent, j'avise une espèce d'alcôve dont la pénombre préserve des esquisses sur papier. Il faut choisir une sanguine, recommande la première ligne d'un portrait du soleil paru l'année de ma naissance. Si ce conseil porte d'abord sur la bonne orange, et orange dans le texte d'Hélène s'écrit avec un J, et sur la chair sanglante du fruit-moi ou du bœuf de Rembrandt, je l'entends in situ dans ce lieu aux esquisses et dirige mon regard sur une étude tracée à l'hématite par Gustave Moreau. La sanguine était d'ailleurs la technique recommandée aux beaux-arts pour rendre la pulpe et les muscles exposés des écorchés. Ici, dans cette esquisse, Moreau dessine, ocre, plusieurs fois une femme en oraison peut-être, levant les bras et ses bras ou mains, fragments de corps et vêtements qui se répètent, se reprennent et varient. Il n'est pas nouveau, mais toujours vrai, d'affirmer que la plus grande part de l'art moderne occidental met au-devant de l'œuvre ce qui lui était naguère nécessaire, mais d'ordinaire scellé. Études, esquisses, croquis reposent sur la sérialité, la fragmentation des motifs, un prompt déplacement des contours et des limites, un remontage des lignes, la définitive obligation du non-fini. Picasso, Abdesemed, Antaille, que Cixous a souvent dépeint, procèdent de cette métabole. L'étude de Gustave Moreau, ici, à la recadrer, à l'agrandir, à l'examiner, est déjà la réitération gestuelle des demoiselles d'Avignon, ou bien le sourd expressionnisme des traits hachurés ou spiralés par Cy Twombly. Ces caractéristiques de l'art pictural dit moderne sont encore en partage avec la poétique de Cixous, qui garde ses repentirs à la suite, affichant le non-fini du manuscrit, se corrigeant sous rature, diffusant et transgressant les contours de son écriture. Une œuvre ainsi faite d'illumination. Enfin, la raison de ma visite au musée, la dernière salle, longue, exiguë, au mur blanc, qui, à l'opposé de sa porte, fait voir le chien de Goya. Sous un déluge sale et safran vient d'un texte d'Hélène, à peine partitionné, la tête pensive d'un chien. Citation d'Hélène, « On ne saura jamais l'histoire de ce chien, mais on peut se la raconter interminablement. » Fin de citation. Parmi les pinturas negras que Goya, vers la fin de sa vie, ajoute au mur de sa villa du Sourd, le chien résiste particulièrement au déchiffrage, c'est-à-dire qu'il suscite des interprétations sans nombre. Et comme le tableau est une question, autre citation d'Hélène, il autorise force réponse en biais ou biaisé. S'y trouvent chez Cixous les évocations successives du chien jaunâtre de l'enfance algérienne. Le chien est jaunâtre dans Les rêveries de la femme sauvage. Ce chien est baptisé Phipps, on l'a déjà vu apparaître à plusieurs reprises aujourd'hui. Il est baptisé Phipps par la mère de la narratrice, Phipps avec deux P comme dans Or, où le nom de Phipps est explicitement transféré du singe fabuleux de Wilhelm Busch, l'auteur de Max und Moritz, qu'on retrouve demain, je crois, à l'animal de compagnie incompris. Dans les autres livres, en particulier dans Les rêveries de la femme sauvage, Phipps est plutôt orthographié avec un seul P. Et son nom fondamental, derrière ce nom, double nom de Phipps avec un ou deux P, est, comme vous le savez, le chien, avec deux majuscules. Comme le vélo, autre protagoniste majeur des scènes primitives, qui a aussi deux majuscules. Et surtout le chien avec deux majuscules, comme le titre du tableau de Goya. Via une référence appuyée à l'animal ôté de l'animal autobiographique, Cixous relie le chien semi-enfoui sous l'art de l'autoportrait, et le relie au chien tragique de l'enfance servant au jeu des rêveries de transfigure sauvage. Transfigure sauvage, c'est une expression d'Hélène. À l'instar de Peter Ibbotson, donc, et je cite ici, « Le chien, deux majuscules, était l'innocent, le prisonnier, le seul d'entre nous à être réduit à l'impuissance totale, privé du droit à la réponse, déporté, livré à la folie des temps. » Fin de citation. Cela vient des rêveries. Par procuration, transfert ou contiguïté, la réponse à l'interminable question réside alors dans les métamorphoses enchaînées de Phips, Phips, un P, deux P, Hélène, je, el perro, le chien. Et dans le jour où je n'étais pas là, ce pendant des rêveries, Phips est en même temps le chien à trois pattes du 1er mai, un emblème de l'enfant mongolien et le livre entier. Hélène Cixous dit de son ouvrage, le jour où je n'étais pas là, qu'elle surnomme livre nié ou livre niais, je cite, « Le livre est un chien à trois pattes, point. Le livre est le chien à demi enterré de Goya. » Fin de citation. J'ajoute une autre citation, qui vient d'ailleurs, de Cixous aussi. Mais tout cela est une question de point de vue et d'occasion. Dans son enfouissement graphique, le chien de Goya n'a pas même trois pattes, ni de corps, or la tête sortant à peine. Il est plus enterré que la Winnie de Beckett. À moins qu'il ne soit pas enseveli, mais tapis derrière une dune, un roc, un petit pan de mur jaune. Le titre exact du tableau, c'est « Le chien à demi enfoui »,« El perro semi hundido », nous rappelle Hélène dans « Peineture ». Toutefois, comme elle nous le rappelle aussi en d'autres occasions, le titre exact, pour reprendre son expression, c'est aussi bien « le chien », avec deux majuscules, ou, et ça c'est moi qui l'ajoute, « perro hundido », ou bien encore « tête de chien » en français, car les pinturas negras, ce qui inclut le chien, ne portent en réalité comme titre que ceux que les conservateurs et les amateurs ont bien voulu leur donner depuis le XIXe siècle. Goya s'étant en l'occurrence privé de son droit à la réponse. Ce tableau, comme les autres peintures noires, déjà déteint et craquelé sur les parois de la maison, fut transféré sur toile. Vous avez la plus ancienne photographie ici, qui a été prise par un Français et qui vous indique donc son titre français, « Tête de chien ». La plus ancienne photographie, dans les années 70, cette toile a été plusieurs fois restaurée par la suite, ses formes et ses détails s'estompant à chaque étape et ses coloris s'altérant également. Donc cette plus ancienne photographie, qui est contemporaine du transfert, vous voyez le morceau de tapisserie qui a été déchiré ici, semble figurer deux oiseaux volants de quelques traits au-dessus d'un roc ou d'une falaise. Du coup, l'iris levé du chien ne serait plus ou ne serait plus seulement le signe anthropomorphique de sacrifice et de désespérance qu'il est dans la version que nous avons d'abord, mais également l'action du regard d'un animal vers d'autres animaux qui s'agitent plus haut. Au tout début de son œuvre, Goya peignait volontiers mains, chats et chiens aux yeux fixes, parfois un chien sous un filet, souvent au regard intensément porté vers un but, comme vous voyez ici et là. Un peu plus avancé. Bon, voilà. Pardon, on va revenir. But qui peut être les spectateurs, ou un objet hors cadre, et à l'occasion, un oiseau, comme ici, ou comme au bas du portrait de l'enfant Manuel Osorio, où des chats hypnotiques ont les prunelles rivées sur la pie qui, en son bec, je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir, tient le corollaire d'une signature, c'est-à-dire un carton calligraphié avec le nom de Goya inscrit dessus. La seule tête dépassant de la ligne foncée sur la peinture noire du chien pourrait ainsi se faire l'indice, cette fois presque comique, d'un petit chien curieux au masque tendre et félin, au masque tendre et félin est un morceau d'Hélène sur Phips, convoitant ou admirant les oiseaux au vol si subtil qu'ils sont tout près de s'effacer de l'image. Et le chien, aux deux majuscules, serait à demi enterré sous la couleur, plus que sous toute autre chose. Et je repense ici à ces deux courtes scènes des corollaires d'un vœu. Je cite, j'ai monté bien sûr les deux citations, mais elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. En 2010, j'observe avec ma mère les deux oisillons accroupis à ma fenêtre. Aide-moi, 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 piaule ma mère, elle est accroupie sur le rebord de l'année 2013, devant elle s'étend la terre creuse. Fin de citation. La transformation de 2010 en 2013 livrerait-elle un aperçu de divers états, réels et virtuels, du perro? Le chien serait soudain ma mère enfouie ou ses oisillons évanouis. En spéculant de la sorte, je n'ignore pas que retentissent les sons de cloche qui m'annoncent l'imminente fermeture du musée HC. Alors oui, je vais sous peu conclure ma visite. Mais saurais-je résister à la discrète exhortation inscrite sur le panonceau accroché à droite du cartel et sous un bouton rond disant, je cite, « renversé », entre parenthèses, signé HC. Ainsi invité, j'appuie donc sur le bouton et le tableau pivote. Il se met tête bêche avant de revenir, haut et bas à l'endroit. Oups, pardon. Et dans les secondes où j'ai pu discerner ce monde à l'envers, qu'ai-je vu ? Une nuée sombre, sous quoi roulait un œil étrange à la redon des hommages à Goya, un soleil noir dans le ciel jauni, délavé, comme une méduse surimposée. Quand, dans les rêveries, Aïcha frappe Phipps au fond de ce que Sixou appelle la nuit du malentendu, on voit, citation, « la terre renversée sur le côté », fin de citation. Quand, dans l'amour du loup, on fait l'expérience de l'amour que Sixou dit vertical, l'auteur assure, je cite, « une fois en haut, on voit, on tombe, on a vu ce qu'on a vu, voir l'autre nous renverse, voir le loup », fin de citation. Le loup de l'amour, ce chien ensablé, se, nous renverse, on a vu ce qu'on a vu, comme un œil ininterprétable qui nous regarde. Il faudrait encore y réfléchir et méditer cette leçon mille fois proposée par les textes d'Hélène, après au moins Ovide et Kafka, que contre toute attente, les plus extraordinaires métamorphoses sont possibles, que l'énergie de ces mutations permet la transforme et la synchronie de l'écriture littéraire, ce qui inclut, entre autres, l'écureuil à demi enfoui de Manhattan qu'on voyait juste avant. Mais je suis pressé et je dois sortir du musée. Une porte dérobée m'irait bien, à moins que tout simplement, ainsi qu'en un grand lavis, parois et cloisons de cette maison sourde ne s'estompent soudain et qu'avec elle, ou les occultes oisillons du tableau de Goya, les derniers mots de ce texte, d'un trait, disparaissent. Merci.
Merci Laurent. Merci de nous avoir ouvert ce musée, les portes de ce musée. Je crois qu'on va y rendre visite encore une fois demain avec des séances sur les arts. On va passer tout de suite à Michael Nass. Michael Nass est professeur de philosophie à l'Université de DePaul à Chicago. Parmi ses livres les plus récents, on trouve Miracle and Machine, The End of the World and Other Teachable Moments, Jacques Derrida's Final Seminar, qui est paru en 2015. Il est également le co-traducteur avec Pascal-Anne Brault, qui est aussi parmi nous, si je ne me trompe pas, de plusieurs ouvrages de Jacques Derrida, dont Mémoire d'aveugle, Adieu à Emmanuel Levinas et Voyou. Il est aussi le co-éditeur du recueil de Derrida, Chaque fois unique, La fin du monde. Donc, Michael Nass va nous parler aujourd'hui. Je donne le titre de son intervention, Simple comme bonjour, les réseaux sociaux d'Hélène Sixou.
Merci. Merci beaucoup, Ashley. Alors, j'avais l'impression, il y a 9 ans, qu'Hélène Sixou nous avait renvoyé la balle, ou bien, comme je veux l'imaginer, le volant. C'était vers la fin de notre colloque consacré à son travail, le pendant, ou le jumeau, à vrai dire, de celui-ci, qu'elle a lu quelques pages de Philippine près d'elle, toujours inédit à l'époque. C'était une façon très puissante de terminer un colloque qui portait comme titre « Quoi rêver ?» Car dans ce texte, comme vous le savez tous, il s'agit bien de notre croyance ou pas en la télépathie et de la possibilité d'un rêve télépathique dans la littérature ou en tant que littérature. Il y avait dans cette lecture, d'il y a 9 ans, beaucoup de choses que j'ai cru reconnaître, les thèmes de l'enfance, de la mémoire et des figures telles que Freud, Proust et Derrida qui peuplent ces textes depuis longtemps. Mais il y avait aussi le roman de Georges Dumouriez, Peter Ibbotson, dont je ne me souvenais pas de l'avoir vu auparavant dans l'œuvre de Sixou. Intéressé à ce moment-là par la façon dont l'écriture de Sixou semble augmenter en force ou en puissance avec chaque nouvelle œuvre, la façon dont chaque nouvel texte remobilise ou repotentialise tout ce qui précède, et surtout, la façon dont chaque texte intègre des images ou des analogies pour décrire ou pour exhiber cette croissance en force ou en puissance. Images de connexion, de branchement ou de liaison, telles que le rêve, la veilleuse, l'appareil photographique, le cinéma, ou bien, et depuis longtemps, le téléphone, je me suis demandé ce qu'il allait faire avec Peter Ibbotson, ce qui se passerait quand tout un nouveau livre externe à son œuvre, si on peut le dire, viendrait se greffer sur son corpus. Si Sixu a pu dire à propos de la télépathie dans Philippines que, je cite, « il y a toujours un dispositif pour programmer les missions réception, un écran toile pour projeter les silhouettes des fantômes. » Je me suis demandé quel genre d'écran fournirait Peter Ibbotson, quelle sorte de toile pour projeter des images de la lecture ou de l'écriture. Alors, pour répondre à ces questions, il faut évidemment commencer à lire, revenir de nouveau au texte comme à sa première enfance. Philippine commence en effet ainsi, avec ce seul mot, revenons, à la fois description et injonction. Comme la narratrice le dit elle-même dans le paragraphe suivant, revenant sera mon premier mot. Quand ce premier mot est suivi de ce qui semble être des souvenirs d'enfance, des journées de soleil et de beauté, mais aussi des images de guerre, le lecteur un peu avisé de Sixu n'est pas étonné de lire à la fin de ce premier court paragraphe ceci. Ces journées ont une adresse inoubliable, rue Philippe. Voilà, nous comprenons, la première résonance de notre titre, Philippine, qui commence déjà à mettre en mouvement toute une trame de signifiants. La rue Philippe, Oran, mais aussi Alger, le père mort et la mère vivante, le frère et la sœur, le chien et le vélo, etc. Revenons, et donc ce que nous faisons, presque immédiatement, peut-être même télépathiquement, le lecteur avec la narratrice, dès ses premières phrases. Bien avant l'évocation de Philippine ou de Philippchen, c'est-à-dire des amandes chez Dumouriez, ce premier Philippe arrive pour ressusciter et faire clignoter tout ce passé en Algérie. Et la même phrase suivante, et la phrase suivante, en italique cette fois-ci, répète et augmente cette injonction ou cette invitation. Revenons à notre point de départ. Phrase qui rend encore plus explicite ce retour à l'enfance déjà évoqué comme point de départ pour la mémoire et l'écriture. Mais les Italiques nous avertissent déjà de quelque chose qui sera confirmé par la suite, à savoir que revenons à notre point de départ est une citation. La toute dernière phrase de ce qui sera le quatrième et tout dernier texte de Freud sur la télépathie, Rêve et occultisme de 1932. La narratrice ne le dit pas, pas encore, mais elle nous confie déjà ce sentiment. Je cite, « Dès que j'entends ce mot, cette phrase, revenons, un enthousiasme de mélancolie me soulève. » On n'est guère surpris par la référence à Proust qui suit immédiatement. On peut presque l'entendre venir de loin, un peu comme le sifflement du train que Marcel entend dans son lit dans les toutes premières pages de la recherche. Et puis la narratrice nous dit, faisant écho à un poète de l'époque de l'épopée, une homère qui est tout sauf morte, « Je chanterai la puissance infinie de telle phrase, pour moi, sur moi, en moi, la quasi-toute-puissance. » Par exemple, de celle-ci. Revenons à notre point de départ. Alors, quant à ce mot de puissance ou de toute puissance, nous savons bien que Sixu l'utilise souvent et depuis longtemps, mais aussi que, depuis HC pour la vie, elle ne peut plus l'utiliser sans faire écho à la lecture bouleversante d'Herrida de ce mot chez elle. Lecture qui n'est pas sans rapport, bien sûr, avec la télépathie et surtout la télépathie en tant qu'écriture. Voilà donc comment Sixu commence en moins d'une page à mettre tout en mouvement et à préparer le terrain pour recevoir cet étrange livre Pierre Ibbotson. Avec une économie inouïe, à peine plus d'une centaine de mots, nous avons déjà mobilisé, après les premières références à l'Algérie dans les années 40, en temps de paix et en temps de guerre, les noms de Freud, Proust et Derrida sur la mémoire, la puissance, l'écriture et la télépathie. Mais à vrai dire, le récit fait plus que convoquer ou mobiliser ces références ou ces figures. Avec des mots comme « revenons » ou « puissance », il figure ou il nomme son propre mouvement, à tel point qu'on peut dire que ce livre ne parle que d'une seule et unique chose, cette chose singulière qui porte le nom mémoire ou revenance ou télépathie ou écriture. Entre le multiple et l'un, le récit et la performance du récit, cette écriture se réfère à tous ces noms et tous ces objets tout en ne se référant qu'à elle-même, comme le grand écran, la grande toile ou le grand réseau télécommunication qu'elle est. 5 pages plus loin, après une deuxième citation, cette fois de Proust, déjà évoquée, et puis une troisième, plus cryptée, de Derrida et la télépathie, et puis un autre retour au point de départ avec une nouvelle référence à la rue Philippe, nous sommes prêts à faire le saut. Je cite, « C'est le printemps. Tout d'un coup, un besoin se réveille. L'antique désir sans âge. Je veux lire Peter Ibbotson. » Comme tout d'un coup de la mémoire involontaire de Proust, ce tout d'un coup marque le moment d'un saut dans le temps. C'est maintenant le 21 mars, le premier jour de printemps, 2008. Et ce qui vient est le désir de, je cite, « rétablir le courant de la vie que les hivers ont coupé, remettre l'immortalité en route. » Rétablir le courant, dit-elle, ce qui indique que nous sommes déjà branchés dans le réseau de Dumouriez et de Freud, qui tous les deux utilisent le langage scientifique de l'époque, le magnétisme ou l'électricité ou la télécommunication, pour parler ou bien littéralement ou bien par métaphore de la télépathie. Je vous rappelle, par exemple, que dans ce texte « Rêve et occultisme » que Cixous cite au début de Philippines, Freud compare à deux reprises la télépathie entendue comme transmission de pensée, à la communication téléphonique ou à la télégraphie sans fil. C'est donc avec tous ces textes de Freud sur la télépathie dans l'arrière-fond qu'il faut lire ensemble, mettre en rapport maintenant, en connexion, ce qui suit dans Philippines sur le vrai livre, le livre miraculeux, et l'histoire 5 pages plus loin, où le frère de la narratrice, ce même frère qui habite avec sa sœur dans un vrai jardin, ce frère qui s'appelle Pierre, c'est-à-dire Peter, c'est-à-dire Pete, écoute Phipps, le chien, qui lui écoute et répète, c'est-à-dire repeat, le père mourant ce 12 février 1948 à 11h45 précise. Et notons que si cet exemple de la communication entre l'homme et l'animal ne figure pas dans les textes de Freud sur la télépathie, la communication entre animaux ou bien chez les insectes qui vivent en groupe est avancée en effet, comme le dernier exemple ou la dernière image de Freud de ce qu'il appelle la télépathie, tout à la fin de Rêve et occultisme, tout près de ce revenant maintenant à notre point de départ. Oui, revenons. Car cet épisode d'un Phipps télépathique, Phipps qui était au courant de la douleur du père et qui, dans le texte, est maintenant porteur d'un écriteur télépathique, ce Phipps ne peut manquer de nous rappeler le chien intérieur qui commence à hurler à la fin de Rêverie de la femme sauvage, ou encore cette phrase de Stigmata où la narratrice dit qu'elle a un chien dans sa tête, comme un jumeau irréconnaissable, dans sa tête comme un amande, dans sa coquille, on a envie de dire. Et si la narratrice est aussi dans sa tête avec son jumeau, ça ferait deux amandes, dans la même coquille, dans le même crâne, comme les Philippiens de Peter Ibbotson. Ou bien, comme j'aurais envie de dire, comme un Almond Joy, bar de chocolat inventé par la société Peter Paul en 1946, pour remplacer, tenez-vous bien, The Dream Bar, créé en 1936, bar qui avait des amandes émincées au lieu de deux amandes entières. Il est facile de voir, après coup, pourquoi le livre de Maurier aura tant attiré l'attention de Cixous, pourquoi elle l'aura lu comme si c'était écrit pour elle, ou bien presque pas elle. Si la narratrice peut dire que Peter Ibbotson est le livre de Henry James qu'il n'a pas écrit, on peut ajouter que c'est le livre de Sixou que Sixou n'a pas écrit. La liste de choses et de thèmes qui apparaissent déjà dans ce roman de 1891 et qui se trouve presque télépathiquement chez Sixou est longue et impressionnante. Une enfance dans deux pays ou deux cultures, la mort précoce d'un parent ou de deux parents, les thèmes de l'exil et de la prison, des échos de Proust, rétrospectives dans l'un, anticipatrices dans l'autre, et la centralité d'un jardin, d'un vrai jardin, avec une grille autour, et dans ce jardin, une relation complice, fusionnelle entre le frère et la sœur. Un simple véhicule qui deviendra l'image de l'écriture, le vélo dans Sixou, une petite brouette chez Dumouriez. Il y a même des amendes chez les deux. Sixou écrit, par exemple, bien avant Philippine près d'elle, « Moi, l'amandier, la Mandela ». Donc, même des amendes. Comme si Sixou et Dumouriez étaient eux-mêmes des Philippines, comme Peter et Mimsy ou la Duchesse de Tours. Et voilà un autre thème en commun, le tour ou les tours. Tout cela donc, mais aussi et surtout, les rêves, la communication à distance, bref, la télépathie. Incapable d'analyser ici le traitement de chacun de ces thèmes chez Dumouriez et chez Sixou dans Philippines, je me contenterai de parler très très brièvement que de ce dernier, afin de démontrer comment la progression de la télépathie imaginée dans Peter Ibbotson, télépathie qui passe sous le nom de rêver vrai, commence à ressembler à ce grand réseau social qui est, me semble-t-il, l'écriture selon Sixou et l'écriture de Sixou. Alors, pour comprendre comment ce livre de Dumouriez conçoit la télépathie entre les individus, il faut comprendre d'abord la place préoccupante de la mémoire inconsciente dans chaque individu. Peter Ibbotson témoigne ou bien spécule, je cite, « Dans notre cerveau contient quelque chose d'apparenté à la fois à une plaque photographique et à un cylindre de phonographie, et à bien d'autres choses de cette sorte non encore découvertes. Rien ne se perd. Ni une vision, ni un son, ni une odeur, ni une saveur, ni un sentiment, ni une émotion. La mémoire inconsciente enregistre tout. » Fin de citation. Notre cerveau contient donc de vastes archives d'images, de sons, d'odeurs, etc., que nous avons enregistrées pendant toute notre vie. La télépathie, le rêve est vrai, tel que Peter Ibbotson l'éprouve avec la Duchesse de Tours, et donc l'envoi de ces images et de ces sons d'un individu à l'autre, et leur projection, si on peut le dire, dans le cerveau ou dans le théâtre, dans la caméra obscura de l'autre. C'est le sommeil ou le rêve qui facilite donc cette transmission. C'est ainsi que Peter Ibbotson, emprisonné, est capable de sortir chaque nuit dans ses rêves grâce à la Duchesse qui partage avec lui tout ce qu'elle a vécu dans le monde extérieur. Mais pour Dumouriez, il faut faire un pas de plus, car même si on peut transférer nos pensées, nos expériences à un autre dans nos rêves, les archives accumulées dans chaque individu, elles, pourraient être complètement effacées, oblitérées avec la mort de l'individu. D'où la folle et belle idée de Dumouriez que ces enregistrements de lumière, de son et d'odeur stockés dans nos cerveaux sont en fait transmis comme des traits héréditaires de génération en génération et que, après la mort de l'individu, ces souvenirs libérés de l'individu deviennent encore plus puissants. Comme le dit la Duchesse de Tours, qui revient une toute dernière fois à Peter Ibbotson pour témoigner de ce phénomène d'une mémoire désincarnée, sans les limitations de nos corps, les expériences deviennent, dit-elle, totales, synesthétiques. On entend les couleurs et on voit les sons, et on voit d'un souvenir ou d'une expérience à l'autre presque instantanément. avec une simplicité absolue. Comme elle le dit dans une phrase en français dans ce roman anglais, pour aller d'un souvenir à un autre, c'est simple comme bonjour. It's as easy as pie. As easy as one, two, three. Alors, j'aimerais suggérer, afin de conclure, que ce corpus sixtusien a comme but ou limite ou une telle simplicité, où chaque chose rappelle ou fait surgir chaque chose. La rue Philippe fait surgir Oran, mais aussi les Philippines, des amandes et des amants, les jardins et les jumeaux, les frères et les sœurs, les jardins et les jours. Et certaines images, la veilleuse, la photographie, le cinéma, la télépathie, le téléphone, le réveil vrai de Peter Ibbotson, sont donc des images qui participent à cette simplicité tellement complexe, mais aussi la norme et la figure. Un corpus complètement détaché de l'auteur, donc, capable de fonctionner comme une grande machine sans lui, un vaste réseau de communication, de connexion, de links, de hyperlinks, qui marche mieux que le téléphone, mieux que Skype, plus puissant que WhatsApp ou FaceTime, plus clair et plus rapide, un peu à l'image peut-être de l'image ici. Dessiné par la revue Punch en 1879, par le même George du Maurier. 12 ans avant Peter Ibbotson donc, nous avons l'image d'un téléphonoscope, d'après les découvertes de Thomas Edison, mais encore mieux, parce que, comme dit du Maurier, ceci transmet la lumière aussi bien que le son. Et nous lisons dans la légende, je cite, « Chaque nuit, avant de se coucher, Pater et Mater Familius installent une caméra obscura électrique au-dessus de la cheminée et se réjouissent de voir les antipodes, à savoir ici l'Inde, et de pouvoir converser gaiement avec le petit enfant par l'intermédiaire du fil. » Alors, je sais bien que cette image n'est guère innocente. Cette image de grands-parents à Londres qui parlent avec leurs petits-enfants en Inde, aux antipodes. Il y aurait en effet beaucoup à dire, je le sais, sur l'histoire de la colonisation en général et de l'Inde en particulier. Colonisation qui aura été facilitée d'ailleurs par de nouveaux moyens de transport et de communication. Mais je vais simplement terminer en suggérant que ce dessin prévoit bien la télépathie et le réveil vrai de Peter Ibbotson, et que ce n'est peut-être pas une coïncidence si, tout comme Sixou, du Maurier place au centre de son dessin sur la télécommunication, une communication transcontinentale, transhémisphérique et transgénérationnelle, une image ou une allégorie de cette télécommunication, c'est-à-dire deux couples qui se renvoie la balle, ou plutôt, j'aimerais l'imaginer, le volant, dans un jeu de badminton. Un volant, je l'imagine, avec un V majuscule, un mot, une phrase, ou tout un manuscrit volant de son Philippian. Pas dessous le filet qui les sépare, c'est-à-dire déjà over the net. C'est à vrai dire la plus puissante, quasi toute puissante réseau du monde. Parce que dès qu'on le branche, dès qu'on commence à lire, il y a son et lumière et odeur. On le branche et c'est bonjour Oran et bonjour Osnabrück, bonjour Manhattan et bonjour Paris. Ça connecte, ça clignote, ça vole de partout. Et puis, nous revenons. Bref, on ouvre le livre, Philippines près d'elle, par exemple, et c'est bonjour l'ambiance. Merci.
Merci Michael pour ce bel exposé. Il y aurait beaucoup à dire sans doute sur la communication entre vos deux exposés qui m'étonnent. On va passer tout de suite à Gertrude Postel qui a reçu son doctorat à l'université de Vienne, je vais le dire en anglais, pour qu'elle comprenne aussi. Je pense qu'on a dû, voilà. So I'll give your presentation in English. So our next two speakers will be speaking in English as well. So Gertrude is, she received her doctorate at the University of Vienna in Austria. She's a professor of philosophy and women's and gender studies at Suffolk County Community College in Selden, New York. Her research focuses on feminist philosophy, in particular on issues of language, writing, the body, and sexual difference. Her current research explores the political implications of reading and writing, bringing into dialogue écriture féminine with Roland Barthes and Jacques Derrida. She is co-edited with Esther Hufless and Elizabeth Schaefer, who will be our fourth speaker today, Hélène Cixous, and then I will not do my pronunciation of their German title, so a book on Hélène Cixous they can speak to us about. So Gertrude's talk today is entitled Cixous' Reading Writing as Subversion from Medusa to Derrida. Thank you.
Thank you, Ashley. The book we co-edited was the first German translation of The Life of the Medusa, which never has been translated in German into German until, like, what, 3-4 years ago. So to just explain. Allow me to make a very small confession here so as to contextualize what I'm going to do. As you heard already from the introduction, yes, I have a very strong feminist background, and my first encounter with the text of Hélène Cixous was in that context. And I don't think it's exaggerated to say that The Life of the Medusa changed my life. Of course, I read it in English, so why do I say that? Because for me, Hélène Cixous has always been an inherently political author. And what I'm going to present here today rests on this conviction that she is a political writer, and thus my focus on the notion of subversion. Does this thing work here, by the way? Yeah? Okay, good. So in her landmark feminist text, The Life of the Medusa, Hélène Cixous develops an account of the relationship between writing and reading that undermines the traditional opposition between author and reader and offers a new perspective on the meaning of text. Writing, as discussed in the Medusa text, is offered as the main strategy for women's liberation, as the central means to enable them to enter history and escape a patriarchy-imposed silence. Writing, for Cixous, is from her early texts on a political practice. It is a doing, a performative gesture that intervenes with the given power arrangements of a culture. However, this practice brings about liberating results only if writing is not approached in a self-centered, self-referential way, in terms of like a unity of an author and his text, and I intentionally say his, but rather if writing comes from the body, from the unconscious, if it brings into expression streams, the secret, the unknown, and most importantly, it must be directed to other women or at other women. And I quote from the Medusa text, woman's very famous lines by now, but I think they cannot be repeated often enough. Woman must write herself, must write about women, and bring women to writing. Woman must put herself into the text, as into the world and into history. Write yourself, your body must be heard. Only then will the immense resources of the unconscious spring forth. It is by writing from and towards women that women will confirm women in a place other than silence. End of quote. The view of writing expressed in the Medusa text is closely tied, obviously, to Cixous' feminist commitment, and it was developed in order to, quote, liberate the new woman from the old. And although this type of writing was to become a blueprint for a feminine style of writing, which draws upon the body, the unconscious personal experience of the woman author, it also, I will claim, laid the foundation for a general theory of writing that is not necessarily bound any longer to the feminist agenda, but it clearly originated in it. And so my point is, it carries this feminist origin in it, this theory of writing, reading, that I claim Hélène Cixous has. Refusing to define feminine writing, Cixous proclaims in the Medusa text the practice of writing that was to establish the new anti-patriarchal economy of desire, which is guided by notions of the excess, the giving a multiplicity of voices, the signifying potential of the body, the rhythms of the unconscious. It is a criticism of a concept of the author as a self-identical coherent subject that forms an enclosed unity with the textual, with his textual product. So I would say it's a criticism of this prototype of the male author in the Western tradition. And it was also in opposition, or it was also directed at this male, let's put it up, right? This male author who is in unity with his product was set up in opposition to a reader conceived of as passively consuming an actually foreign text that can, in the best case, only be interpreted. So the kind of hermeneutic approach. But never, this text can never be interfered with or continued, passed on in one's own terms. So eliminating this concept of the author and of the reader gives way now to focus on an interactive, for lack of better word, author-reader relation, this writing from and towards women, exercised on the level of the text and on language itself. And I quote again from the Medusa text, "She, woman, she lets the other language speak, the language of a thousand tongues, which knows neither closure nor death. Her language does not contain, it carries. It does not hold back, it makes possible." And it is that quote that I will come back to in the following. "Language understood in this way does not let the author lay any possessive claims on a produced text, but rather opens up spaces, generates possibilities, allows for the signifying appearance of the other, be it the other woman, the reader, the unconscious, the excluded. What originated within the context of a feminist resistance and criticism can be viewed in terms of a general theory of writing reading that rests on an anti-patriarchal perspective in the way it conceives the relationship between the author and the reader." Given these feminist origins, writing for Hélène Cixous always has been viewed as a subversive and therefore, as I claimed already, political practice. And I quote again from the Medusa text, "Writing is precisely the very possibility of change," emphasis in the text, "the space that can serve as a springboard for subversive thought, the precursory movement of a transformation of social and cultural structures." End of quote. Sorry. This subversive potential of writing, in turn, requires a view of reading as an active, engaging process as opposed to passive consumption. And a quote from the Three Steps on the Ladder of Writing, "Writing and reading are not separate. Reading is part of writing. A real reader is a writer. A real reader is already on the way to writing." End of quote. This account of writing, reading, not only changes the traditional concepts of author and reader, but will furthermore generate very different types of texts, texts that are not thematically enclosed entities to be approached from the outside in an interpretive act, but rather open-ended configurations of linguistic science, inviting readers to insert themselves into the text, creating an ongoing textual transformation and change of meaning. Texts, as I quoted before, that make possible rather than hold back. Texts that are not only open-ended, but open in and of themselves. Texts that can be entered or left at any point. In the remaining part of my paper, I would now make a big jump from the Medusa text and its explicit kind of directedness to an addressee and to look into the interaction between Hélène Cixous and Jacques Derrida, obviously from Hélène Cixous' side, meaning I will draw upon Insist of Jacques Derrida and very briefly of Portrait of Jacques Derrida as a Young Jewish Saint. I treat those texts now as more applied, personalized versions of Cixous' understanding of the reader-writer relationship. Contrary to the Medusa text, these texts in question constitute a unique manifestation of the interaction between two writers and two readers engaged in a close intellectual and personal relationship. And not only Alain Cixous and Jacques Derrida, readers of each other's texts, they also share an abundance of personal encounters and a long history of sharing their individual experiences. Their texts to and about each other are as much autobiographies as they are accounts of reading experiences and of a shared life, thereby cutting across the traditional genres of philosophy, literature, letter writing, written dialogue, commentaries, etc. And furthermore important, I think, is by looking at these particular encounters that we now, contrary to the Medusa text, find a triangular relationship because we as readers still exist. So you have Alain Cixous and Jacques Derrida reading each other, but we also participate in that, while in the Medusa text it was the author directed at the other woman. And I take this these texts like In Sister and Jacques Derrida's Young Jewish Saint as kind of a model for academic reading in general, because most academic texts are texts about other authors. So the triangular relationship is kind of there in all of them. Anyhow, what Cixous and Derrida offer us, the readers, in these texts is a performative writing reading practice, like two stage actors meeting on a page, or in Derrida's terminology, repeated instances of signature and counter-signature. And while, as compared to the Medusa text, the explicit liberating and empowering qualities directed at the woman reader are absent in the text in question, they nevertheless have more subtle and hidden subversive implications, in particular with respect to how the reader-writer positions are cast and how text itself comes across, out of that, so to speak. Cixous and Derrida's written interactions challenge the reading-writing subject, or I, in favor of a type of what I would call collaborative writing, in favor of a dissemination of texts, of textual space in spaces in between, of texts, again, that make possible rather than hold back. The way the two authors now, Alain Cixous, Jacques Derrida, interact in writing always opens possibilities and of entry and intervention for a third party, now us, the readers, being the third party. Although the texts do not proclaim a specific course of action for the reader, as was the case in the Medusa text, like go write your body, so to speak, the reader here is challenged to navigate his or her position as being excluded. No, we are not part of their intimate relationship, but also being invited to participate at the same time. In reading and subsequently writing about each other, neither of the two authors ever forgets that their texts will be read by others who are not part of their relationship. The public is always present in spite of the autobiographical secrets both authors might share and exchange. And I quote now from In Sister, "I think about the secret. On the one hand, I love and need the secret. On the other, the secret attracts indiscretion and vulgarity. An autobiography in absolute secret, absolutely private, all the more so for being public." End of quote. And a similar point we find in Derrida, now in HC for Life, where he says, "What she signs," talking about Alain Cixous, "is an arch secret and an arch public place, both at once." Contrary to the traditional genre of autobiography, which rests on the secret, on the revelation of something private, on the scandal, on an indiscretion and vulgarity, Alain Cixous' insertion of autobiographical elements regarding her encounter with Derrida is incoherent, fragmentary, and clearly not chronological. The refusal to tell the linear story of a life or of a relationship from beginning to end manifests itself among a lot of other instances. I just, for time's sake, had to pick one. Manifests itself in Cixous' references to Derrida's meandering reflections on repeated beginnings. And I quote from In Sister, "In the end, you will not have had the time to begin, But this you knew in advance. So what's going on, on the one hand, Derrida's repeated beginnings, Cixous reflecting upon that, commenting on it, is already in itself a deconstruction of the very notion of beginning and end, and thus kind of blows away the concept of a linear narrative. I could say much more about that, but I won't, because I know I'm under... I have to give my friend some time to talk as well. So this non-linear presentation of intimate events or personal reactions to each other texts contributes to what I call the openness of the text, because a linear text kind of is exclusive. It's hard to get into. If it's not linear, that opens chances for the reader. And a further reason for that, what I call openness of the text, is that they admit the dependency of the secret on the public. Without the circulation of public information, without us, the readers, being interested on what Cixous and Derrida have to say to each other or about each other, nothing would be labeled private. So it is exactly this oscillation between the private, the secret, and the public which assures the possibility of the entry, in addition to the nonlinear structure, so which assures the possible entry or intervention of the reader. Although both texts are full with private information, neither text feels exclusive, neither forces the reader to just peek in from the outside in some voyeuristic curiosity, but rather we are allowed to enter. We can locate ourselves in the midst of the writer-reader exchange that goes on between the two of them. We witness the encounter, but we are also encouraged, so to speak, to write a new text. But of course, we are also at points excluded because we don't share the experience. So Cixous' strategy is to destabilize the position of the author as well as the one of the reader. And in my view, it's exactly this move that assures the subversive quality of the texts, rendering them inherently political without explicitly empowering an assumed addressee. So it's not go write your body or something. Cixous engages in the format, now just talking for in those two books, of fictional dialogues whereby it is not always clear who takes which part in these dialogues. She uses you to address Derrida, but frequently it's ambiguous. This you could also be us as readers. But also, in addition, she refers to her alleged interlocutor in the third person, he or him, thus shifting the use of personal pronouns. When talking about Derrida, she indicates that he is proceeding in a similar fashion, and I quote again from Insister. Most often, speaking of him in writing, I say you. That is, too. This you is not in my control. As for him, you say rather she of me. He says Hélène, or Hélène Cixous, or HC, end of quote. So you have kind of all versions of possible pronouns and variations of the name all in one statement, so to speak. But that statement is symptomatic because that is one of the main kind of structure strategies employed in the text. The shifting use of pronouns renders... undermines the certainty of the author as well as the certainty of the reader position, rendering any continuous identity of an author subject or a reader subject impossible, which in turn has the effect on us, the readers, that our position is also shifting. Between confusion about being addressed via a you, which might not even be me, between reading snippets of narratives of two people's interactions that are rather private and reading snippets of experiences and so on, but sometimes also listening in on something we are actually not meant to hear. So again, we are included and excluded inside and outside of the text at the same time. And this is a sentiment which we seem to share with the author, and I quote again from Insister, where to put myself, where to begin to read. For I am inside and outside. And that was now Hélène Cixous speaking. But also Jacques Derrida is inside and outside, obviously, Alain Cixous lets Derrida speak for himself by including lengthy quotes from his text. Many of these passages, though, are texts where he talks about her. So now we get passages where Derrida, quoted in a text by Alain Cixous, where Derrida talks about Alain Cixous. Get it? It's like a higher order of like multiple interactions. And that's what I mean with, that is for me a version of collaborative writing, even though the authors published it under their respective own names. Okay. I skip over something because I know I'm probably in trouble already. Am I? How much? Okay. It's a two, that's fine. So the designating references to each other change and differ, but are also inseparable from each other, revealing secrets, but also making themselves public, which makes it for the reader possible and impossible at the same time to identify with the protagonists, to feel with them or for them, to follow their thoughts or not, and very importantly, to hear their written sounds. Because not to forget, reading, and we're talking about reading here, for Alain Cixous is also always a matter of listening and of hearing. And a quote again from Insister, between us, now talking to Derrida, it has always been a question of writing, of living in language, of hearing ourselves write, so to speak. We speak to one another so as to hear ourselves read, to know how to read, to write ourselves speaking, to give ourselves the writing that is in speech, sometimes so as to take words from each other's mouth. And I have to say, it's that image, to take words from each other's mouth, that again, very, like for me, in a very touching way, conveys this with the collaboration. We take words of each other's mouth, you know. So, I'm just skipping over. I have a brief passage where I say that for Alain Cixous, the senses are never separate but always come together. So hearing and speaking and touching are kind of always working together. And if we conceive of the reading-writing practice in terms of a bodily activity that involves all the sensual levels, or the entire spectrum of the senses, then we can easily return to Cixous' proclamation in the Medusa text, write yourself, your body must be heard, and to the subversive qualities of writing associated with these proclamations. It's just that now, in the text I discussed at the end now, in this what I call interactive texts or collaborative texts, it is not just one body or one author or one reader. It is literally a melting and a blending. It's taking words from each other and thereby creating something that the reader can also enter. To summarize, Cixous' reading-writing practice opens up spaces between author and reader, writing and speech, autobiographical facts and fiction, between literature and philosophy, presence and absence of meaning, and, in the given case, of course, between Alain Cixous and Jacques Derrida. Traditional oppositions and identities are thereby undone, allowing for open-ended texts to appear and for subversive thought to unfold. Thank you. I just made it.
Thank you. Thank you very much. It's nice to hear your voice. We'll pass directly to Elizabeth Schaefer, who holds a postdoctoral position on a research project called Artist Philosophers, Philosophy as Arts-Based Research at the University of Applied Arts in Vienna. She's also affiliated to the Department of Philosophy at the University of Vienna, where she's been teaching since 2010. Her main teaching and research areas include deconstruction, queer feminist philosophy, écriture féminine, philosophy of the body. In 2015, with Elizabeth Schaefer, she edited the first German translation by Claudia Sema, who is with us today as well, of the Rire de la Méduse,
And she's also, if I understand it correctly, editing an upcoming German translation, also by Claudia, of Writing Blind. Is that correct?
That's yes. Correct, yeah.
And that will be coming out soon. So two publications that we've now announced to be on the table soon. Elizabeth will be speaking to us today. The title of her talk is Hélène Cixous, Life Writings, Writing a Life on Autobiograph Fiction. Thank you.
Thank you very much, Ashley. Being grateful to be here, I would like to start with a quote taken from Hélène Cixous in Sister. I quote, "I feel, I well feel, I indeed feel, if you cannot come, nothing keeps you from being there. There is neither limit nor bar for the shiftiness of being." End of quote. Logic has always been a secret to me, thus a corollarium, here understood as a logical sequence or a progression, is a secret to me too. I quote, "How many passers-by have left their signature here?" End of quote. This is a quote from Double Oblivion of the Orangutan. May I be part of this secret corollary or not? I am here to find a way to respond to the fact that life made it happen, that I am witnessing a secret of being here, sitting on this stage, exposed and hidden by the same time. Exposed because it is a stage, and hidden because speakers on conferences oftentimes hide behind huge tables. I am here with the trees in my bag. If one only would become a tree, one would have time enough and life to tell what only slowly, very slowly arrived. I quote, "We will have long since found out that the secret of secrets is a matter of reading signs. All secrets are written." End of quote. And continuing, Hélène Cixous says in The Double Oblivion of the Orang-Utan, I quote, "They live in the dispersal of a language whose elements are for the most part confused with the elements found in nature." End of quote. When I write, I am often not yet writing. When writing comes to me, I am often running. When I write, I am running fast. The body moves and coordinates breathing and pulse and all kinds of moves. It is the rhythm that invites the words to dance, as Nietzsche might have said. And the words are always already bound to elsewhere. They are already addressing something or someone other, something to come or something past, something ahead. May it only be the blank page waiting for the words to be settled there. And while I'm running, I often dream of swimming. I would dearly swim, but I always run. So my running is dedicated to my never realized swimming, and perhaps it is not even swimming, maybe it's rather my dream of diving. So my writing is never identical to itself. Writing is so deeply entangled with something other than itself that you cannot grasp its pure essence, because its essence isn't pure. When I write, I run and I dream of swimming, which I might confuse with diving. But that's not all. Still running, I now reach my desk. I sit down. Now writing empties into another act. But where do I write? On my way towards or at my desk? Writing empties onto the page and it flows. It flows to someone other than me, to some thought I haven't yet thought. It's running through my hands, leaving these hands. Its essence is nothing else than address, affinities, entanglement. Its movement is fluctuation. Its place is the in-between. So we are not only passing subjects, trespassing within the very nature or essence of our ambiguity, we are more than that, the passage itself. The self is the passage, the very passage of everything which passes in time, space, in the whole universe, and the passage forms what is passing and what makes it pass. Deleuze-Guattari have put it like that. I quote, "The self is the only threshold, a door, a becoming between two multiplicities," end of quote. When I write, I'm snorkeling. It's all about breathing through a small stick of plastic, my pen. It is all about becoming a creature moved by fins, and I quote, "We are bodies in ghosts as fast as the radio," end of quote. The place of writing is never one. Writing exceeds place, space, bodies, subjects, authors, readers, and goes beyond communication. This is what Jacques Derrida pointed out when he said, I quote, "A written sign carries with it a force that breaks with its context, that is, with the collectivity of presences organizing the moment of its inscription. This breaking force is not an accidental predicate, but the very structure of the written text," end of quote. A force that breaks, writing exceeds, the written text exceeds, every sign exceeds. Thus, writing thus contains the imminent tendency to cross, to transfer, to transgress, to transform, to transpose it. Given that, what is an autobiography? Is it possible to start from oneself? Which self? To return to oneself? Which self? What happens on this path of writing? What happens to truth? What happens to the act of witnessing? What happens due to the necessity that writing has to pass oneself towards oneself? Is this the same self? And if not, what has happened? If it is fiction which takes place, what does this mean? How could any text ever tell something about one's own life? What could it look like to start out from oneself, describe indeed this one's own life, and thus, by the way of writing, return to one's own, and to allow as little alien as possible to pass by on this way? An autobiography, does it exist? This narration of oneself returning to oneself, which by the movement of writing stays with itself? Autobiography means a life written down by one's own hands, and as such it is an independent and established literary genre which, however, requires one crucial precondition. It requires a subject which is imagined according to the tradition of the 18th century Enlightenment and is connected to the concept of a mostly male author as a guarantor and originator of a text. A guarantor because the author may be considered to be the legitimate authority which can validly inform about the meaning of this writing about oneself to oneself. Thus understood, autobiographical texts present the experiences and views of the experiencing subject from a perspective which is exclusively its own, from itself to itself. The encounters of deconstruction do no longer allow for all too easily speaking of autobiography in the above given sense. There is Roland Barthes' dictum of the death of the author, there is Deleuze speaking of the normalization of the subject, etc., which demand a new approach also for the research on autobiographies, from a subject-centered towards to a decentralization theory of the subject. A subject which is not completely transparent, which cannot completely return to itself. Hélène Cixous gives us a numerous variety of radical references to what she calls autobiographiction. The autobiography is not only extended by the dimension of fiction, rather fiction is declared the latter's fundamental precondition. Writing about one's own life is fictional writing. It is not that it may be fictional, but it is constitutively fictional. That is, the only register to tell about one's own life is the register of fiction. So it seems that Hélène Cixous's texts want us to be aware of the fact that both biography and autobiography confront us with a variety of problems. At first, and in most cases, both narration formats, biography, autobiography, confronts us with and places us within one of the most prominent problems of deconstruction, the question, what is an author? Certainly, the author is neither the guarantor nor the originator of what is told. Something written will continue to be something written only if it is readable. Writing must meet the condition of being readable. Writing must meet the condition of being repeatable. It must do so to be writing, even if writers and recipients are no longer able to present it. I quote Jacques Derrida, "What kind of a sign would that be which cannot be quoted and whose origin could not be lost on the way?" End of quote. So any language is incomplete. All its elements, even those of oral speech, no matter if they are big or small elements, must always be able to take them out of the respective context and move them, shift them, wedge them into other context. A written or spoken sign can endlessly be taken out of a context and moved. It must be endlessly quoted. All signs must be iterable, they must be repeatable. On the one hand, this means that they must always be recognizable as what they are and must be distinguishable from others. At the same time, due to the procedure of wedging in, this means that they are changeable in the process of repeating. No sign can be kept within one particular context. From this perspective, it seems to be independent of context, and indeed it is, which is, however, may not be understood as a kind of independence which would make the signs capable of living their own lives outside all context. Iterability changes, undermines, and makes the sign a quasi-parasite. This way, writing will always slip away. And who is writing? Who is signing this kind of writing which can no longer be an ontological modification of presence? In a way, I'm countersigning here today. Derrida knows he, she must first come into existence. The name is always the future. So I'm countersigning here today. I'm here to countersign within the corollaries of a signature. So I am waiting for my future name to transform myself. Thus, it is the structural feature of writing to become unfaithful, to be scattered. Being faithful to the word, to writing, means being faithful to the unstoppable principle of transformations. Hélène Cixous' numerous autobiographic fictions are always radical confessions. However, they are radical because they are fictitious. On the one hand, the author of these texts inscribes herself into the tradition of great authors of confessions like Saint Augustine, Rousseau, Jean-Paul, Goethe, and many others more. At the same time, she deconstructs the confession as an authentic information about the self, which could only be delivered and granted by an authentic I. As truth has become fictitious, it can only be radically expressed by way of fiction. This is probably why Hélène Cixous furthermore explicitly refers to literary precursors like Montaigne, James Joyce, Kafka, Freud, Rimbaud, Benjamin, Clarice Lispector, Thomas Bernhardt, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, etc. Autobiographic fictions are not at all texts taking an always constant perspective, which take the perspective of an experiencing I. Rather, Hélène Cixous' writing opens up a transpersonal space, allowing for dedicating autobiographic fictions to different characters than the narrating I. Thus, the life, bios, to be told, is radically present in its rhizomatic structure, its entanglement. There is no thing such as one life, at least not as a unit, as an originally singular event, which must be considered accordingly. Rather, in life, in singular life, initially there exists the interwovenness with many lives, the life of the mother, of the father, of brothers and sisters, of daughters and sons, of friends, of animals, of gods, of literary figures, of plants. All texts are part of a life. I quote, "To me, my texts are elements of a whole which interweaves my own story. They are seasons," end of quote. Thus, Hélène Cixous' autofictionality seems to understand itself also as a radical revelation of the precedence of others, however also in the sense of a radical openness into which the text is sent. Thus, the autobiographic fiction deconstructs both authorship and the telos of a text by revealing that any text always already comes from others and is already entrusted to others. In this sense, the autobiographic fiction is nothing private, it is not for itself. It is always already exposed to openness, to being with and to others. Thus, it is not only an aesthetical, but always an aesthetical and ethical milieu for all of us to live in. Writing and living, it seems to me that the very approach of Hélène Cixous' text is at this core addressing the act of writing as a form of existence, of living a life. I quote, "Writing is good. It is what never ends. The simplest, most secure other circulates inside me like blood. There is no lack of it. I write the encore, still here. I write life." End of quote. To put it in no uncertain terms, like Derrida, Hélène Cixous faces death in her writing encounters. However, her texts draw, at least in my perspective, completely different conclusions. Writing appears in her texts as, I quote, "a school of death." She claims that, I quote, "to begin writing living, we must have death," end of quote, and continues in stating, I quote, "writing is learning to die," end of quote. Nevertheless, the death Hélène Cixous' texts are facing does not suck life out of her texts. The death Cixous is facing is neither a personal or singular death, nor is it a cutting force which has the power to mark everything before or after. In a way, yes, death is a cut one has to face, especially as a writer. But this does not mean death is the fundamental and irreducible underpinning perspective on the world. Yes, death is a radical cut, but it is not addressed as the end in Cixous' texts. In contrary, astonishing enough, she sets death at the beginning of writing. Death is something one has to face and to pass in order to reach a plane of an ongoing force of a life. This might not be my singular life, but the life that realizes itself as my life for its peculiar time is a life that realizes itself in manifold particular ways. The realizations of this life are defined, but not so much alive. Perhaps this is the supreme act of philosophy, not so much to think of the term of this immanent life, but to show that it is there, unthought, everywhere, even here. It is here, while I'm sitting here in front of the trees, behind a huge blue table, sharing my dreams of diving, full of gratitude. Isn't this a trans-subjective life this text is addressing here? Which means a life that passes subjects, realizes itself with and within embodied subjects, but not in starting and ending with them. Where has the corollary begun? So I shake myself like a dog with its ears flapping. I want to write pure movement, says Clarice Lispector, and I want to write like tears flow, for once to learn to dive. Thank you.
Merci, merci Elisabeth. Nous avons quelques minutes.
And I want to be silent. I'm grateful for all of those very beautiful and revealing, I can't call them papers, communications. What should I say since we have only a couple of minutes? I'll talk with each of you later. I enjoyed, of course, immensely the museum that my friend Laurent has built so powerfully. It's at the same time, it tastes a little like meeting with a... Ah, mais pourquoi est-ce que je parle anglais? Flûte alors. Non, je reprends le français. C'est vrai que c'était absolument adorable et en même temps, ça posthume. Hein, ça ne peut pas ne pas posthumer. Enfin, je suis bien obligée de reconnaître qu'il y a une discrète posthumitude ou posthumité qui flotte. Et justement, Elisabeth m'a surprise parce que je ne sais pas si elle-même a entendu son travail sur le diving et sur le dying, mais c'était là, voilà. Tout en nous proposant de devenir arbre, ce qui est pas mal parce que là, la mort se disperse entre terre et végétation. Mais enfin, tout était trop beau. Alors, Michael, tu sais, tu m'as tout simplement fait apercevoir quelque chose qui est pourtant totalement évident. Mais justement, c'est le propre de l'écriture que de ne pas voir ce qu'elle manifeste. Je n'avais pas, je crois, en tout cas, je n'avais pas eu le sentiment d'être une sorte d'écho ou de répétition de Du Maurier. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors que moi, j'ai travaillé, comme tu le sais, sur le livre, sur voilà, le livre. Mais j'ai pas pensé que j'ai pensé que c'était le livre aimé, voilà, l'absolu, tout en me disant que c'était tout à fait étrange que ce soit justement ce livre. Mais voilà. Mais peut-être que c'est le sort de toute rencontre, puisque ça, c'est ce que Gertrude signifiait aussi, cette rencontre. Entre le lecteur et le livre, entre la lecture et l'écriture, en fait, on se rencontre soi-même. Mais naturellement, comme nous sommes innombrables, cela nous donne des chances de nous rencontrer plus d'une fois dans plus d'un texte, parce que c'est inépuisable. Et pendant que j'entendais nos amis évoquer avec des points de vue et des engagements tout à fait différents, le rapport, le triple rapport, lire, écrire, s'écrire, se lire, tout ça. J'étais traversée par le pas de Montaigne, comme toujours, parce qu'il a tout dit dans ce domaine.